Alors du coup, les enfants peuvent rejoindre maintenant les classes d'école du dimanche. Il y a une vieille histoire taoïste qui raconte la venue d'un disciple chez un maître pour lui demander de l'enseigner. Le maître invite le disciple à s'asseoir avec lui pour discuter et, selon la coutume du pays, prendre le thé. Alors qu'ils sont assis, le maître commence à parler au disciple, mais chaque fois que celui-ci lui explique quelque chose, le disciple l'interrompt. Il lui dit « ça je le sais déjà » ou bien « c'est ce que je fais dans telle ou telle situation » ou encore « moi je n'ai pas ce genre de problème parce que je fais ceci » ou « je fais cela ». Au bout d'un moment, le maître s'arrête de parler et se met à préparer le thé pour le servir. Une fois le thé prêt, il commence à remplir la tasse du disciple, mais ne s'arrête pas quand celle-ci est presque pleine. Et bientôt, la tasse déborde et n'arrête plus de déborder. Voyant la tasse déborder, le disciple interpelle le maître. « Maître, dit-il, ma tasse est pleine, elle déborde. » Posant alors la théière sur la table, le maître regarde le disciple, lui sourit puis lui répond « Oui, ta tasse est pleine. C'est la raison pour laquelle je ne peux rien t'enseigner. » Ne peut être enseigné que celui dont la tasse n'est pas déjà pleine. On ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. J'aimerais ce matin, alors que nous poursuivons notre série sur l'apôtre Paul, aborder entre autres la question de notre capacité à être enseigné, notre capacité à changer, notre capacité à progresser en général et en particulier dans la vie chrétienne. Suis-je enseignable ? Ou bien ai-je le sentiment de déjà tout savoir ? Ma tasse est-elle pleine ? Ou bien reste-t-il de la place ? Ai-je encore le désir d'apprendre ? Ou bien suis-je satisfait d'en être arrivé là où j'en suis ? Ces questions, nous allons les considérer ce matin au travers d'un personnage que nous allons croiser dans la ville d'Éphèse. Il s'agit d'un certain Apollos, un homme, dit notre texte, très éloquent, très instruit et qui pourtant va se laisser enseigner par deux simples faiseurs de tentes. La dernière fois, nous avons médité la visite de Paul à Corinthe, ville dans laquelle il va rester 18 mois. Et puis, après ces 18 mois passés à Corinthe, l'apôtre amorce le retour. Et c'est la fin du deuxième voyage qui s'approche. Après avoir fait un vœu et après s'être fait raser la tête selon la coutume juive de l'époque, Paul embarque avec Priscille et Aquilas en direction d'Éphèse. Arrivé à Éphèse, comme à son habitude, l'apôtre Paul se rend à la synagogue. Il discute avec les Juifs présents et rapidement on lui demande de rester, de prolonger son séjour. Mais l'apôtre refuse. La raison ne nous est pas donnée. Par contre, il va laisser à Éphèse Priscille et Aquilas, et promet de revenir à ses Juifs dans la synagogue « si Dieu le veut », dit-il. « Si Dieu le veut », non pas comme une formule à bon marché, mais comme l'indication que ce qui compte vraiment, c'est la volonté de Dieu à laquelle l'apôtre se soumet. « Si Dieu le veut ». Et c'est ainsi que Paul repart d'Éphèse, et fait voile vers Césarée. Césarée où il va débarquer, de là il va monter à Jérusalem, saluer l'Église et certainement leur raconter tout ce qu'il vient de vivre pendant ce deuxième périple. Après quoi l'apôtre descend à Antioche, retour à la case départ, retour à l'envoyeur, à l'Église mère. C'est la fin du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre. J'aimerais lire avec vous le texte que je viens de résumer, qui se trouve dans le chapitre 18 du livre des Actes, à partir du verset 18. Paul demeura encore là bien des jours, c'est-à-dire à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sanchré, car il avait fait un vœu. Quand ils arrivèrent à Éphèse, il les laissa. Il se rendit à la synagogue et discuta avec les Juifs, qui lui demandèrent de rester là quelque temps. Mais il n'y consentit pas. Il prit congé d'eux en disant « Je reviendrai chez vous, si Dieu le veut ». D'Éphèse, il fit voile vers Césarée, où il débarqua. Il monta saluer l'Église, puis il descendit à Antioche. Après quelque temps, il repartit et passa successivement par le pays Galate et la Phrygie en affermissant tous les disciples. À l'évidence, Luc, l'auteur du livre des Actes, n'a pas estimé nécessaire de s'attarder sur les détails du séjour de l'apôtre lors de son retour au pays. En effet, très rapidement, nous l'avons lu, il est tout de suite question d'un nouveau départ. Un nouveau départ qui va entraîner l'apôtre Paul dans un troisième périple. Un troisième voyage où rien ne nous est dit jusqu'à la ville d'Éphèse. Rien ne nous est dit si ce n'est qu'il est passé par le pays Galate et la Phrygie. Alors, la fameuse carte que l'on commence à connaître maintenant du deuxième voyage. Donc, il part de Corinthe, Sanchré, le port de Corinthe, jusqu'à Éphèse, et ensuite il fait route Césarée, Jérusalem, et puis retour à Antioche. C'est la fin du deuxième voyage. Le troisième voyage, c'est la nouvelle carte. La voici, on la découvrira dans les prochaines semaines, où nous voyons l'apôtre Paul partir d'Antioche, passer par le pays Galate, la Phrygie, et arriver jusqu'à Éphèse, où nous allons nous rendre ce matin. Avant de parler de ce que l'apôtre va faire à Éphèse, Luc ouvre une parenthèse. Une parenthèse qui se situe entre la première et la deuxième venue de l'apôtre à Éphèse. Il ouvre cette parenthèse pour nous parler d'un certain Apollos. C'est le récit qui va retenir notre attention ce matin et nous le trouvons dans les derniers versets du chapitre 18. J'aimerais vous en faire la lecture maintenant. Or un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, et fervent d'esprit, il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il était décidé à passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et ils écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants, car avec vigueur, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Qui est Apollos ? Le texte nous dit que c'est un juif originaire d'Alexandrie. Alexandrie, ville d'Égypte, était à l'époque la deuxième plus grande ville de l'Empire romain. Mais ce qui est surtout notable concernant cette ville d'Alexandrie, c'était une très grande ville donc, mais un tiers de sa population à cette époque était constituée de la communauté juive. Un tiers de la population d'Alexandrie. Et donc, il n'est pas surprenant que ce soit à Alexandrie qu'ait été traduite la Septante, la fameuse traduction grecque de l'Ancien Testament. Revenons à notre personnage. Qui est-il ? Force est de constater que ce qui est dit de lui est plutôt élogieux. Il est dit qu'il était éloquent. Le mot utilisé ici peut aussi se traduire par « instruit ». Il est dit également qu'il était versé dans les Écritures. Littéralement, on pourrait traduire qu'il était puissant dans les Écritures. Autrement dit, sa connaissance des Écritures était tout, sauf superficielle. Ensuite, il nous est dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Nous reviendrons sur cette phrase dans quelques instants. Et enfin, il est dit de lui qu'il était fervent d'esprit, littéralement qu'il était bouillant d'esprit. Apollos était passionné pour le Seigneur, plein de zèle pour Dieu. Il connaissait bien les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et c'est ainsi que tout naturellement nous allons le retrouver dans la synagogue en train de prêcher. C'est ce qui nous est dit au verset 26. De quoi parlait-il à la synagogue ? Nous lisons au verset 25, « Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. » Il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Apollos connaissait Jésus. Il connaissait Jésus et il enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais il y a un mais. Je lis le verset 25 en entier. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il disait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Alors qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il y a un mais parce que Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Qu'est-ce que cela nous indique ? Qu'est-ce que cette précision signifie ? Cela nous indique que la connaissance qu'Apollos avait de Jésus était incomplète. Elle était limitée, elle était partielle. Elle n'était pas fausse, mais elle n'était pas complète. Ce qu'il savait de Jésus, il l'enseignait avec exactitude, mais il lui manquait des pièces du puzzle. Que savait vraiment Apollos ? Que savait-il vraiment de Jésus ? S'il était converti, que signifie qu'il ne connaissait que le baptême de Jean ? S'il ne connaissait que le baptême de Jean, était-il vraiment converti ? S'il ne l'était pas, s'est-il converti par l'intermédiaire de Priscille et d'Aquilas ? Si c'est le cas, pourquoi n'est-il pas question de son baptême ? Comme il sera question du baptême dans les versets qui vont suivre, au chapitre 19, de ceux qui, comme lui, ne connaissaient que le baptême de Jean et qui, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, vont se convertir et être baptisés. Pourquoi, s'il s'est converti, ne nous est-il rien dit de sa conversion ? Toutes ces questions sont importantes. Et vous vous doutez peut-être qu'elles font débat. Elles ne font pas consensus. Certains pensent qu'Apollos n'était pas converti, qu'il ne connaissait pas l'Évangile, alors que d'autres pensent qu'il le connaissait mais mal, qu'il le connaissait mais de façon incomplète. Je ne trancherai pas la question ce matin. Les arguments sont nombreux dans les deux sens, ils sont parfois complexes et j'ai décidé de ne pas rentrer dans ces détails-là. Par contre, ce que l'on peut dire et même affirmer, sans prendre position sur ces questions que je viens de mentionner, c'est que quelle qu'ait été la connaissance qu'Apollos avait de Jésus, elle était partielle, elle était incomplète. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Il ignorait donc tout du baptême de Jésus, du baptême de l'Esprit. Souvenez-vous de ces paroles de Jean-Baptiste, quand il disait que lui baptise d'eau, mais que celui qui vient après lui baptiserait dans l'Esprit Saint et dans l'Esprit Saint et le feu. Matthieu 3, verset 11. Apollos connaissait sans doute la mort et la résurrection de Jésus. Mais il ne savait rien, semble-t-il, de la venue de l'Esprit à la Pentecôte. Il ne savait rien ou très peu de l'œuvre de l'Esprit, de la vie de l'Esprit. Son évangile était encore un évangile d'anticipation et non un évangile d'accomplissement. Jean prêchait le baptême de la repentance. Pourquoi faire ? Pour préparer le chemin du Seigneur. Mais le Seigneur était venu. Le Seigneur est venu. Il est mort et il est ressuscité. Et maintenant n'est plus le temps de l'attente. Maintenant n'est plus le temps des promesses. Maintenant c'est le temps de la réalisation, le temps de l'accomplissement et le temps de la vie nouvelle que Dieu offre par Jésus et par l'Esprit Saint. Oui, Apollos prêchait le Christ, mais sa prédication était incomplète. Et c'est ici qu'interviennent Priscille et Aquilas, dont nous avons bien parlé la dernière fois. Ils entendent Apollos parler dans la synagogue, et ils l'entendent omettre des choses importantes sur Jésus. Que font-ils ? Ils se lèvent et le reprennent en public. Ah non, ça c'est pas notre texte. Ils agissent avec tact. Ils vont, semble-t-il, le trouver après coup, le prennent avec eux, et nous lisons qu'ils lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Ils lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Priscille et Aquilas vont remplir les cases vides de la théologie d'Apollos. Ils vont compléter le puzzle, rajouter les pièces manquantes, et ils vont le faire avec tact. Il est bienfaisant d'être au bénéfice du tact de nos frères et sœurs en Christ, du tact des autres à notre égard. Après ce temps avec Priscille et Aquilas, Apollos va partir d'Éphèse pour aller à Corinthe. Pour aller à Corinthe où il va accomplir un travail précieux dans l'église là-bas. Je relis les versets 27 à 28. Comme il était décidé à passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent. Et ils écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Arrivé là, il se rendit très utile à ceux qui, par la grâce, étaient devenus croyants, car avec vigueur, il réfutait les Juifs publiquement et démontrait par les Écritures que Jésus est le Christ. Si vous lisez l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, vous vous souvenez, c'est en réalité la deuxième lettre que Paul leur écrit. Vous verrez que Paul fait à plusieurs reprises mention d'Apollos. Je ne vais pas plus développer sur Apollos, mais simplement vous dire que beaucoup d'érudits de la Bible, et pas des moindres, pensent aujourd'hui qu'Apollos est peut-être l'auteur inconnu de l'Épître aux Hébreux. Il y a quand même de bonnes indications pour le penser. Concernant notre épisode, notons que s'il y a d'un côté le tact de Priscille et Aquilas, il y a de l'autre l'humilité d'Apollos, sa capacité à se laisser enseigner, lui l'érudit, lui l'éloquent, lui l'homme puissant dans les Écritures, lui s'est assis aux pieds d'Aquilas et de Priscille et s'est laissé enseigner par eux. Eux, simples faiseurs de tentes, sans instruction particulière. Et il a appris d'eux. Apollos s'est laissé enseigner. Il savait beaucoup de choses, mais il savait qu'il ne savait pas tout. Il était enseignable. Sa tasse n'était pas pleine. Impossible de ne pas poser quelques questions ici pour nous faire réfléchir chacun. Qu'en est-il de nous ? Sommes-nous enseignables ? Suis-je enseignable ? Est-ce que je me laisse encore, peut-être après 50 ans de vie chrétienne, 5 jours, peu importe, est-ce que je me laisse encore interpeller par le Seigneur, interpellé peut-être par les frères et sœurs en Christ, interpellé par ceux qui sont moins instruits que moi? Ces questions sont importantes et nous devons honnêtement chercher à y répondre dans notre cœur. J'aimerais terminer ce message avec plusieurs leçons que je retire de ces quelques versets que nous venons de parcourir. Et la première leçon que j'aimerais souligner rejoint ce que je viens de dire à l'instant, à savoir que nous avons toujours besoin d'apprendre. C'est vrai dans la vie en général et c'est vrai bien évidemment dans la vie spirituelle en particulier. Jamais nous ne savons tout. Notre connaissance, aussi grande soit-elle, est toujours partielle. Jamais nous n'avons fini d'apprendre, si du moins nous sommes enseignables. Que le Seigneur nous garde chacun de croire un jour que nous y sommes parvenus, de croire que ça y est, nous avons atteint le but, et que ça y est, nous n'avons plus rien à apprendre. La vie chrétienne est comparable à une marche. Et qui dit marche dit progression. Est-ce que je progresse dans ma vie chrétienne ? Est-ce que vous progressez dans votre vie chrétienne ? Dans votre marche avec le Seigneur ? Y a-t-il des choses que j'ai apprises récemment et que j'ai eu la joie de mettre en pratique dans ma vie ? Est-ce que j'ai le désir de progresser, de changer, d'apprendre à mieux connaître le Seigneur? Que le Seigneur nous garde de l'esprit orgueilleux qui pense tout savoir. Que le Seigneur nous garde du dogmatisme péremptoire, systématique ou quasi systématique. Que le Seigneur nous garde d'imaginer que notre tasse est pleine. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Le sage, dans le Proverbe, écrit « Donne au sage, et il deviendra plus sage. Donne la connaissance au juste, et il augmentera son savoir. » Moody, le grand évangéliste du XIXe siècle, disait qu'à chaque fois qu'il écoutait prêcher l'évangéliste écossais Henri Drummond, il devait rentrer à la maison et brûler une partie de ses prédications. parce qu'il avait appris de nouvelles choses et qu'il se rendait compte que dans certains domaines, il n'avait pas tout à fait dit les choses comme il aurait dû. Donne au sage et il deviendra plus sage. Nous avons toujours besoin d'apprendre. C'est la première leçon que je voulais souligner. La deuxième leçon que j'aimerais développer maintenant concerne la connaissance de l'œuvre de Jésus. Elle doit être complète. Je ne dis pas parfaite, mais complète. Elle ne l'était pas pour Apollos. Bien sûr, nous avons toujours des choses à apprendre, nous venons de le dire. Nous avons toujours des choses à mieux comprendre, à réapprendre, à réentendre parce que nous sommes oublieux sur Jésus. Ce que je veux dire ici, c'est que nous devons tout savoir de son œuvre du salut, tout comprendre de son œuvre du salut et de ses implications pour notre vie. Et je crois que trop de chrétiens dans le monde, sur cette terre, se contentent uniquement de quelques pièces du puzzle. Trop de chrétiens se contentent de ce qu'ils ont compris au début de leur conversion, sans jamais chercher à approfondir. Trop de chrétiens stagnent dans leur vie chrétienne, font du surplace dans leur marche avec le Seigneur, parce qu'ils ont arrêté de s'instruire, d'apprendre, de vouloir comprendre. Alors mes amis, permettez-moi cette question directe. Il y en a quelques-unes ce matin. À quand remonte la dernière fois que vous avez ouvert votre Bible pour la lire, pour la méditer? Il y a des pauses, des capitulations qui stoppent notre croissance spirituelle. Alors pourquoi ne pas saisir l'occasion de ce message ce matin pour prendre la décision de recommencer, si cela se justifie, de recommencer à lire la Bible? Pourquoi ne pas décider maintenant de relire un des quatre évangiles? Pourquoi ne pas saisir ce moment pour décider de venir ou de recommencer à venir à l'étude biblique si votre emploi du temps le permet? Pourquoi ne pas décider ce matin de lire, de relire un bon livre sur Jésus? Il y en a plusieurs qui existent. Je serais heureux de vous en indiquer l'un ou l'autre. Lucien, je suis sûr qu'il en connaît aussi beaucoup. Si vous allez à la librairie Certitude, on vous guidera. Pourquoi ne pas prendre une telle décision maintenant? Notre connaissance de l'œuvre de Jésus doit être complète. Elle doit être sans cesse complétée. C'est notre deuxième leçon. Et puis la troisième leçon que je voudrais vous proposer ce matin est que nous pouvons tous avoir un impact positif dans la vie des autres. Pas besoin d'être forcément érudit. Pas besoin d'être forcément éloquent. Pas besoin d'avoir fait une faculté de théologie. Il suffit de vivre avec le Seigneur, de l'aimer, de connaître son Sauveur et son Seigneur et de partager ce que je sais de lui. Souvenons-nous de Priscille et d'Aquilas, simples faiseurs de tentes. Et pourtant Dieu les a utilisés pour enseigner Apollos. Apollos l'érudit. Et lui permettre de grandir en lui. Nous pouvons tous avoir un impact positif dans la vie des autres. C'est la troisième leçon. La quatrième leçon que je voudrais vous proposer ce matin, c'est que l'œuvre de Dieu avance malgré tout. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là, par exemple, que Paul, nous l'avons vu, la dernière fois, rappelé ce matin, a dû quitter Corinthe. Mais Dieu va former Apollos pour le remplacer à Corinthe. L'œuvre de Dieu avance, malgré tout, malgré nous parfois, malgré toutes les oppositions et malgré tous les obstacles. Cette quatrième leçon est intimement liée à la question de la souveraineté de Dieu. Dieu a pourvu Apollos pour Corinthe, mais avant cela, souvenez-vous, il a conduit Aquilas et Priscille, chassés par l'empereur Claude de Rome, qui sont arrivés à Corinthe, qui là ont été instruits par l'apôtre Paul, puis sont partis avec l'apôtre Paul à Éphèse, et là à Éphèse, ils ont rencontré Apollos, et Dieu s'est servi d'eux pour le faire grandir en lui. L'œuvre de Dieu avance malgré tout, car Dieu est souverain. Dieu n'est jamais à court de ressources. Il est toujours celui qui tient ses promesses. Il est toujours celui qui accomplit sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons être confiants. Confiants en l'avenir. Confiants même pour l'éternité. Confiants que son plan s'accomplira. Confiants que même quand nous ne comprenons pas les voies de Dieu, Dieu fait son chemin. Confiant même quand nous sommes dans une impasse. Confiant même quand nous ne sommes pas à la hauteur de notre vocation. Parce que Dieu n'est jamais à court de ressources pour accomplir sa volonté. Il est souverain et son œuvre avance toujours. C'est notre quatrième leçon. C'est aussi l'avant-dernière. Et nous arrivons à la dernière leçon ou application de ce matin. Éphèse précède toujours Corinthe. Cette cinquième et dernière leçon peut paraître énigmatique à première lecture, mais elle veut simplement dire qu'il ne faut pas brûler les étapes dans notre vie. Apollos n'était pas prêt pour aller à Corinthe avant d'avoir appris les leçons que Dieu voulait qu'il apprenne à Éphèse. Parfois, nous voulons aller trop vite. Nous brûlons les étapes. Et parce que nous ne sommes pas prêts pour l'étape suivante, le résultat escompté n'est pas là. Et nous nous posons des questions. Et nous ne comprenons pas. C'est pourquoi je crois qu'il faut que nous apprenions sans cesse à vivre pleinement l'instant présent, pleinement aujourd'hui, pleinement le présent, parce que c'est de là que nous apprenons ce que Dieu veut nous apprendre. Et c'est en apprenant ce que Dieu veut nous apprendre que nous pouvons passer à l'étape suivante dans notre vie. Cette étape que le Seigneur prépare pour nous, ces bonnes œuvres que Dieu prépare d'avance pour que nous les pratiquions. Avant d'aller à Corinthe, il faut assimiler les leçons d'Éphèse. Avant d'aller à Corinthe, il faut que je sois enseignable à Éphèse. Nous avons besoin du Seigneur pour cela, qu'il nous y aide. Amen. Je vous laisse les cinq leçons quelques instants, nous pouvons prendre quelques instants de silence où chacun peut repasser dans son cœur ce qu'il vient d'entendre et pourquoi pas prendre l'une ou l'autre décision devant le Seigneur. Prenons quelques temps, quelques instants de silence.